Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revenons donc dans nos lectures en liberté à quelques extraits du récit de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Depuis bientôt 2 ans, je vivais entouré de regards fraternels. Quand regard il y avait. La plupart des déportés en étaient démunis. Éteints, leurs regards, obnubilés, aveuglés par la lumière crue de la mort. La plupart d'entre eux ne vivaient plus que sur la lancée, lumière affaiblie d'une étoile morte, leur œil. Ils passaient, marchant d'une allure d'automate retenue, mesurant leur élan, comptant leurs pas. Sauf au moment de la journée où il fallait justement le marquer, le pas martial, lors de la parade devant les SS matin et soir sur la place d'appel au départ et au retour des commandos de travail. Ils marchaient, les yeux mi-clos, se protégeant ainsi des fulgurances brutales du monde, abritant des courants d'air glacial la petite flamme vacillante de leur vitalité. Mais il était fraternel, le regard qui aurait survécu, d'être nourri de tant de morts, probablement, nourri d'un si riche partage. J'arrivais au bloc 56 le dimanche, dans le petit camp. Doublement close, cette partie de l'enceinte intérieure, réservée à la période de quarantaine des nouveaux arrivés. Réservée aux invalides, le bloc 56 en particulier, et à tous les déportés qui n'avaient pas encore été intégrés dans le système productif de Buchenwald. J'y arrivais le dimanche après-midi, tous les après-midi de dimanche de ce printemps-là, en 1944, après l'appel de midi, après la soupe aux nouilles des dimanches. Je disais bonjour à Nikolai, mon copain russe, le jeune barbare. Je bavardais un peu avec lui. Il valait mieux l'avoir à la bonne. Qu'il m'eût à la bonne plus tôt. Il était chef du service d'intendance du bloc 56. Il était aussi l'un des caïds, des bandes d'adolescents russes sauvages qui contrôlaient les trafics et les partages de pouvoir dans le petit camp. Il m'avait à la bonne, Nikolai. Il m'accompagnait jusqu'au chalet où croupissaient Albvar et Maspero. De semaine en semaine, j'avais vu se lever, s'épanouir dans leurs yeux l'aurore noire de la mort. Nous partagions cela, cette certitude, comme un morceau de pain. Nous partagions cette mort qui s'avançait, obscurcissant leurs yeux comme un morceau de pain, signe de fraternité. Comme on partage la vie qui vous reste. La mort, un morceau de pain, une sorte de fraternité. Elle nous concernait tous, était la substance de nos rapports. Nous n'étions rien d'autre, rien de plus, rien de moins non plus que cette mort qui s'avançait. Seule différence entre nous, le temps qui nous en séparait, la distance à parcourir encore. Je posais une main que je voulais légère sur l'épaule pointue de Maurice Albvar, os quasiment friable, à la limite de la brisure. Je lui parlais de ses cours en Sorbonne autrefois, ailleurs, dehors, dans une autre vie, la vie. Je lui parlais de son cours, sur le potelard. Il souriait, mourant, son regard sur moi, fraternel. Je lui parlais de ses livres, longuement. Les premiers dimanches, Maurice Albrach s'exprimait encore. Il s'inquiétait de la marche des événements, des nouvelles, de la guerre. Il me demandait, ultime souci pédagogique du professeur dont j'avais été l'étudiant à la Sorbonne, si j'avais choisi une voie, trouvé ma vocation. Je lui répondais que l'histoire m'intéressait. Il hochait la tête, pourquoi pas ? Peut-être est-ce pour cette raison qu'il m'a alors parlé de Marc Bloch, de leur rencontre à l'université de Strasbourg après la Première Guerre mondiale. Mais il n'a bientôt plus eu la force de prononcer le moindre mot. Il ne pouvait plus que m'écouter, et seulement au prix d'un effort surhumain. Ce qui est par ailleurs le propre de l'homme. Il m'écoutait, lui parlait du printemps finissant, lui donnait des bonnes nouvelles, des opérations militaires, lui rappeler des pages de ses livres, des leçons de son enseignement. Il souriait, mourant, son regard sur moi fraternel. Le dernier dimanche, il n'avait même plus la force d'écouter, à peine celle d'ouvrir les yeux. Nicolas m'avait accompagné jusqu'au chalet où Maurice croupissait aux côtés d'Henri Maspero. Ton monsieur professeur s'en va par la cheminée aujourd'hui, a-t-il murmuré. Ce jour-là, Nicolas était d'humeur particulièrement joviale. Il m'avait intercepté hilar dès que j'avais franchi le seuil du bloc 56 pour plonger dans la puanteur irrespirable de la baraque. J'avais compris que ça marchait pour lui. Il avait dû réussir un gros coup. « T'as vu ma casquette ?» m'avait dit Nicolai. Il se découvrait, me tendait sa casquette. Je ne pouvais pas ne pas la voir. Une casquette d'officier de l'armée soviétique. Voilà ce que c'était. Nicolai effleurait du doigt, d'un geste caressant, le liseré bleu de sa belle casquette d'officier. « T'as vu ?» insistait-il. « J'avais vu. » Et après, « Une casquette du NKVD !» s'exclama-t-il, triomphant. « Une vraie ! Je l'ai organisée aujourd'hui même !» J'avais hoché la tête, je ne saisissais pas bien. Je savais ce que voulait dire « organiser » dans le sabir des camps. C'était l'équivalent de voler, ou d'obtenir quelque chose par une combine quelconque, troc ou extorsion au marché parallèle. Je savais aussi ce qu'était le NKVD, bien sûr. D'abord, ça s'était appelé la Tchéka, ensuite le GPU, maintenant le NKVD, le commissariat du peuple aux affaires intérieures. À peu près à cette époque, d'ailleurs, les commissariats du peuple avaient disparu, ils étaient devenus des ministères, tout bêtement. Je savais que le NKVD, c'était la police en somme. Mais je ne saisissais pas l'importance que Nicolas accordait visiblement au port d'une casquette de policier. Mais il allait immédiatement me fournir une explication. « Comme ça, s'écria-t-il, on voit aussitôt que je suis un maître. » Je l'avais regardé. Il avait remis sa casquette. Il avait fière allure, martiale sans doute. On voyait que c'était un maître. Nicolas y avait dit « Meister ». Le jeune russe parlait couramment, avec volubilité même, un allemand assez primaire, mais expressif. Si un mot venait à lui manquer, il l'improvisait, le fabriquait à partir des préfixes et des formes verbales germaniques qu'il connaissait. Depuis que je le fréquentais à l'occasion de mes visites dominicales à Maurice Halbach, nous étions entendus en allemand. Mais le mot « Meister » me faisait froid dans le dos. On appelait ainsi des petits chefs contre-maîtres civils allemands, parfois plus durs que les SS eux-mêmes, plus durs que les types de la Wehrmacht, en tout cas, qui régnaient à coups de gueule et de triques dans les usines de Buchenwald sur le travail harassé des déportés. « Meister », »,« maître d'œuvre », »,« maître de main-d'œuvre », »,« esclave ». J'avais dit à Nicolai que le mot « Meister » ne me ravissait pas. Il avait ri d'un rire sauvage en proférant un juron russe où il était question d'aller baiser ma mère. Suggestion fréquente dans les jurons russes, il faut le dire. Ensuite, il m'avait tapé sur l'épaule, condescendant. Tu préfères que je dise « Führer » au lieu de « Meister », par exemple. Tous les mots allemands pour dire « chef » sont sinistres. Cette fois, il avait dit « capot » pour dire « chef ». Tous les mots allemands pour dire « capot », avait-il dit. Il riait encore. Et en russe, tu crois que les mots russes pour dire « capot » sont drôles ? Je hochai la tête, je ne savais pas le russe. Mais il s'arrêtait de rire brusquement. Un voile d'étrange inquiétude obscurcissait ses yeux, aussitôt disparu. Il me posait de nouveau une main sur l'épaule. La première fois que j'avais vu Nicolas, il avait été moins familier. Il ne portait pas encore la casquette à liseré bleu, mais il avait déjà l'air d'un petit chef. Il avait bondi vers moi. « Tu cherches quoi, ici ?» Il était campé au milieu du couloir du bloc 56, entre les hautes rangées de chalis interdisant l'entrée de son territoire. Je voyais briller dans la pénombre le cuir bien astiqué de ses bottes de cheval, car il ne portait pas encore la casquette des troupes spéciales du commissariat du peuple aux affaires intérieures, mais déjà des bottes et un pantalon de cheval avec une vareuse militaire d'une coupe soignée. De parfaits petits chefs, en somme. Il fallait le moucher aussitôt, sinon je ne m'en tirerais pas. 2 mois de camp m'avaient appris cela. « Et toi, lui ai-je dit, tu cherches la bagarre? Tu sais au moins d'où je viens ?» Il avait eu un instant d'hésitation, avait regardé ma tenue attentivement. Je portais un caban bleu, quasiment neuf, des pantalons de lainage gris et des bottes de cuir en parfait état. De quoi le faire hésiter, bien sûr, réfléchir du moins. Mais son regard revenait sans cesse au matricule cousu sur ma poitrine et à la lettre S qui le surmontait dans un triangle d'étoffe rouge. Cette indication de ma nationalité, S pour Spaniers, espagnol, ne semblait pas l'impressionner, bien au contraire. Avait-on déjà vu un espagnol faire partie des privilégiés de Buchenwald? Des cercles du pouvoir au camp, non. Ça le faisait sourire, finalement, ce S sur ma poitrine. « La bagarre avec toi » a-t-il dit d'un air suffisant. Je me voyais lui parler, je m'entendais lui crier et le menacer, et je me trouvais assez ridicule, assez infect même, de le menacer d'un départ en transport. Mais c'était la règle du jeu. Et ce n'est pas moi qui avais institué cette règle de Buchenwald. En tout cas, l'allusion, au départ, a fait miracle. C'était le bureau du camp où l'on distribuait la main-d'œuvre aux différents commandos de travail, où l'on organisait aussi les transports pour les camps extérieurs, généralement plus durs que Buchenwald même. Nicolas a deviné que je ne bluffais pas, que j'y travaillais vraiment. Il s'est aussitôt radouci. Depuis ce premier jour, il m'avait à la bonne. Il m'a posé une main sur l'épaule, donc. « Crois-moi, » disait-il, d'une voix brève et brutale, « il vaut mieux porter la casquette du NKVD si on veut avoir l'air d'un capot russe. » Je ne saisissais pas entièrement ce qu'il voulait dire. Ce que j'en saisissais était plutôt déconcertant. Mais je ne lui ai pas posé de questions. Il n'en dirait pas plus, d'ailleurs, c'était clair, il avait tourné les talons et m'accompagnait jusqu'au chalet de Maurice. J'avais pris la main de Maurice, qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux. J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère. Le professeur Maurice Halbwark était parvenu à la limite des résistances humaines. Il se vidait lentement de sa substance, arrivé au stade ultime de la dysenterie qui l'emportait dans la puanteur. Alors, dans une panique soudaine, ignorant si je puis invoquer quelque dieu pour accompagner Maurice, conscient de la nécessité d'une prière, pourtant, la gorge serrée, je dis à haute voix, essayant de maîtriser celle-ci, de la timbrer comme il faut, quelques vers de Baudelaire. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. aux morts. Vieux capitaine, il est temps. Levons l'ancre. Le regard de Maurice devient moins flou, semble s'étonner. Je continue de réciter, et quand j'en arrive à « Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons », un mince frémissement s'esquisse sur les lèvres de Maurice. Il sourit, mourant, son regard sur moi, fraternel.
Denis Flageol.
Nous revoici ensemble donc pour ce dernier extrait du récit de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Le Kaddish. Une voix soudain derrière nous. Une voix ? Plainte inhumaine plutôt. Gémissement inarticulé de bêtes blessées, mélopées funèbres, glaçant le sang. Nous nous étions figés sur le seuil de la baraque au moment de ressortir à l'air libre, immobile. Albert et moi pétrifiés à la frontière de la pénombre puante de l'intérieur et du soleil d'avril dehors. Un ciel bleu, à peine pommelé face à nous. La masse à prédominance verte de la forêt alentour, au-delà des baraques et des tentes du petit camp. Le paysage en somme éternel qu'avaient dû contempler Goethe et Eckermann lors de leur promenade sur l'Ettersberg. C'était une voix humaine cependant, un chantonnement guttural, irréel. Nous restions immobiles, Albert et moi, saisis. Albert était un juif hongrois, inusable et trapu, toujours d'humeur joviale, positive du moins. Je l'accompagnais ce jour-là pour une dernière tournée d'inspection. Depuis 2 jours, nous regroupions les survivants juifs rescapés d'Auschwitz, des camps de Pologne. Enfants et adolescents en particulier étaient rassemblés dans un bâtiment du quartier SS. Albert était le responsable de cette opération de sauvetage. Nous nous étions retournés vers la pénombre innombrable, le sang glacé, d'où surgissait cette voix humaine. Car il n'y avait pas de survivants, nous venions de le constater. Nous venions de parcourir dans toute sa longueur le couloir central de la baraque. Les visages étaient tournés vers nous qui marchions dans le couloir. Les corps décharnés, couverts de haillons, s'allongeaient sur les 3 niveaux superposés du chalet. Ils s'imbriquaient les uns dans les autres, parfois figés dans une immobilité terrifiante. Les regards étaient tournés vers nous, vers le couloir central, souvent au prix d'une violente torsion du cou. Des dizaines d'yeux exorbités nous avaient regardés passer. Regardés sans nous voir. « Tu entends ?» a dit Albert dans un murmure. Ce n'était pas une question, à vrai dire. Je ne pouvais pas ne pas entendre. J'entendais cette voix inhumaine, ce sanglot chantonné, ce râle étrangement rythmé, cette rhapsodie de l'au-delà. Je me suis tourné vers l'extérieur. L'air tiède d'avril, le ciel bleu. J'ai aspiré une goulée de printemps. « C'est quoi ?» a demandé Albert d'une voix blanche et basse. « La mort !» lui ai-je dit. « Qui d'autre ?» Albert a eu un geste d'agacement. C'était la mort qui chantonnait sans doute quelque part au milieu de l'amoncellement de cadavres, la vie de la mort en somme qui se faisait entendre, l'agonie de la mort, sa présence rayonnante et funèbrement loquace. Mais à quoi bon insister sur cette évidence ? Le geste d'Albert semblait dire cela. À quoi bon, en effet ? Je me suis tu. Le four crématoire ne fonctionnait plus depuis 3 jours. Lorsque le comité international du camp et l'administration militaire américaine ont remis en marche les services essentiels de Buchenwald afin de nourrir, soigner, habiller, regrouper les quelques dizaines de milliers de rescapés, personne n'avait pensé à faire fonctionner de nouveau le crématoire. C'était impensable, en effet. La fumée du crématoire devait disparaître à jamais. Pas question qu'on la voie encore flotter sur le paysage. Mais si l'on ne partait plus en fumée, la mort n'avait pas cessé pour autant d'être à l'œuvre. La fin du crématoire n'était pas la fin de la mort. Celle-ci, simplement, avait cessé de nous survoler, épaisse ou légère, selon les cas. Elle n'était plus de la fumée, parfois presque immatérielle, cendre grise quasiment impalpable sur le paysage. La mort redevenait charnelle et s'incarnait de nouveau dans les dizaines de corps décharnés, tourmentés, qui constituaient encore sa moisson quotidienne. Pour éviter les risques d'épidémie, les autorités militaires américaines avaient décidé de procéder au rassemblement des cadavres, à leur identification et à leur sépulture dans des fosses communes. C'est précisément en vue de cette opération que nous faisions, Albert et moi, ce jour-là, une dernière tournée d'inspection dans le petit camp avec l'espoir de trouver encore quelques survivants trop faibles pour s'être de lui-même joint à la vie collective reprise depuis la libération de Buchenwald. Albert est devenu livide. Il a tendu l'oreille, m'a serré le bras, à me faire mal, frénétique soudain. « Yiddish !» s'est-il exclamé. « Elle parle Yiddish !» Ainsi, la mort parlait Yiddish. Albert était mieux placé que moi pour l'entendre, le déduire plutôt, des sonorités gutturales, pour moi dépourvues de sens, de cette mélopée fantôme. Somme toute, ça n'avait rien de surprenant que la mort parla yiddish. Voilà une langue qu'elle avait bien été forcée d'apprendre ces dernières années. Si tant est qu'elle ne l'eût pas toujours su. Mais Albert m'a pris le bras qu'il serre très fort. Il m'entraîne de nouveau dans la baraque. Nous faisons quelques pas dans le couloir central, nous nous arrêtons. Nous tendons l'oreille, essayant de repérer l'endroit d'où provient la voix. La respiration d'Albert est haletante. « C'est la prière des morts, » murmure-t-il. Je hausse les épaules. Bien sûr que c'est un chant funèbre. Personne ne s'attend à ce que la mort nous serine des chansons drôles, ni non plus des paroles d'amour. Nous nous laissons guider par cette prière des morts. Parfois, nous sommes obligés d'attendre, immobiles, retenant notre souffle. La mort s'est tue. Plus moyen de s'orienter vers la source de cette mélopée. Mais ça reprend toujours, inusable, la voix de la mort, immortelle. Soudain, en tournant à tâtons dans une courte allée latérale, il me semble que nous touchons au but. La voix déchirée, rauque, murmurée, est toute proche désormais. Albert fonce vers le chalet d'où s'élève le râle chantonné. 2 minutes plus tard, nous avons extrait d'un amoncellement de cadavres l'agonisant, par la bouche de qui la mort nous récite sa chanson. Sa prière plutôt. Nous le transportons jusqu'au porche de la baraque au soleil d'avril. Nous l'étendons sur un tas de haillons qu'Albert a rassemblés. L'homme garde les yeux fermés, mais il n'a pas cessé de chanter d'une voix rauque, à peine perceptible. Je n'ai jamais vu de figure humaine qui ressemble autant à celle du crucifié. Non pas à celle d'un Christ roman, sévère mais sereine, mais à la figure tourmentée des Christs gothiques espagnols. Certes, le Christ en croix ne chantonne pas habituellement, et pas la prière des morts juives. C'est un détail. Rien ne s'opposerait, je présume, d'un point de vue théologique, à ce que le Christ chante le Kaddish. Attends-moi là, dit Albert, je fonce prendre un brancard. Il fait quelques pas, revient vers moi. Tu t'en occupes, hein? Je trouve ça tellement idiot, tellement déplacé même, que je réagis avec violence. Je lui fais quoi, à ton avis? La Cosette, je lui chante une chanson, moi aussi, la Paloma peut-être? Mais Albert ne se laisse pas démonter. Tu restes près de lui, c'est tout. Et il court vers l'infirmerie du camp. Je me retourne vers le gisant, les yeux fermés, et il continue de chantonner. Mais sa voix s'épuise, me semble-t-il. Cette histoire de Paloma m'est venue comme ça, à brûle pour point. Mais elle me rappelle quelque chose dont je ne me souviens pas. Me rappelle que je devrais me souvenir de quelque chose, du moins, que je pourrais m'en souvenir en cherchant un peu. La Paloma. Le début de la chanson me revient en mémoire. Pour étrange que ça paraisse, c'est en allemand que ce début me revient. je dis entre mes dents le début de la Paloma en allemand. Je sais désormais de quelle histoire je pourrais me souvenir. Je m'en souviens vraiment, tant qu'à faire, délibérément. L'Allemand était jeune, il était grand, il était blond. Il était tout à fait conforme à l'idée de l'Allemand, un Allemand idéal, en somme. C'était un an et demi auparavant, en 1943. C'était en automne, du côté de ces murs en auxois. À un coude de la rivière, il y avait une sorte de barrage naturel qui retenait l'eau. La surface en était, à cet endroit, quasiment immobile. Miroir liquide sous le soleil de l'automne. L'ombre des arbres bougeait sur ce miroir d'étain translucide. L'Allemand était apparu sur la crête du rivage à motocyclette. Le moteur de son engin ronronnait doucement. Il s'était engagé sur le sentier qui descendait vers le plan d'eau. Nous l'attendions, Julien et moi. Il a roulé jusqu'au bord de l'eau et descendu de son engin qu'il a calé sur son trépied. Debout, respirant la douceur de la France profonde, il a défait le col de sa vareuse. Il était détendu, visiblement. Mais il était resté sur ses gardes. Sa mitraillette lui barrait la poitrine, suspendue à la bretelle qu'il avait passée autour du cou. Julien et moi, nous nous sommes regardés. La même idée nous était venue. L'Allemand était seul. Nous avions nos armes. La distance qui nous séparait de l'Allemand était bonne. Il était tout à fait à portée de nos armes. Il y avait une moto à récupérer, une mitraillette. Nous étions à l'abri, à l'affût. C'était une cible parfaite. La même idée nous était donc venue à Julien et à moi. Mais soudain, le jeune soldat allemand a levé les yeux au ciel et il a commencé à chanter. La Paloma. Ça m'a fait sursauter. J'ai failli faire du bruit en cognant le canon de mon revolver contre le rocher qui nous abritait. Julien m'a foudroyé du regard. Peut-être cette chanson ne lui rappelait rien. Peut-être ne savait-il même pas que c'était la Paloma. Même s'il le savait, peut-être que la Paloma ne lui rappelait rien. L'enfance, les bonnes qui chantent à l'office, les musiques des kiosques, à musique dans les squares ombragés des villégiatures, la Paloma. Comment n'aurais-je pas sursauté en entendant cette chanson ? L'Allemand continuait de chanter. D'une belle voix blonde. Voilà. Nous avons terminé donc ces extraits du récit de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.